Merci d'être là, à 9h du matin. Pour parler de la planète Jules Verne, donc la revue que j'ai entre les mains, dont le thème du cinquième numéro, revue nantaise, donc parution annuelle. Thème du cinquième numéro, l'éternelle question du temps. C'est un peu la question de la semaine aux Utopiales ici. Donc l'idée c'est de présenter la revue et puis les quatre contributeurs qui sont là. Ils sont beaucoup plus nombreux. La revue est assez volumineuse. Donc peut-être quelques mots d'ailleurs sur cette revue. Donc c'est une revue qui est éditée par tout un collectif. D'abord le musée Jules Verne évidemment. Donc l'idée de cette revue c'est de traiter un sujet transversal ici, la question du temps. Et pas tout ramener à Jules Verne, mais d'utiliser peut-être Jules Verne comme figure tutélaire de ces différents sujets. Figure qu'on a l'habitude de croiser ici à Nantes, hein, puisque c'est un peu le saint patron de la science-fiction et a fortiori de la culture scientifique à Nantes, Jules Verne. Donc les contributeurs ici présents, d'abord Jean-Bastien Steyer, bonjour. Donc vous êtes paléontologue au CNRS et au Muséum d'Histoire Naturelle. Votre domaine de recherche, c'est les premiers âges de la Terre. Peut-être que d'ailleurs vous pouvez être plus précis. C'est quel âge en particulier, votre époque de prédilection?
À peu près 250 millions d'années. Donc on est à 10, 20 millions d'années avant les dinosaures, les tout premiers dinosaures.
D'accord, ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, que vous étudiez l'histoire de la vie avant les dinosaures, c'est que dans l'imaginaire commun, c'est la préhistoire, c'est les dinosaures, et vous...
Oui, des fois on me dit, ah bon, il y avait quelque chose avant les dinosaures? Oui, il y avait quelque chose, en tout cas suffisamment pour en faire une carrière. Et du coup, on est assez spécialisé en fait en paléontologie, notamment des vertébrés. J'ai des collègues, bien sûr, qui travaillent sur les dinosaures, d'autres qui travaillent sur l'après-dinosaure. Et moi, c'est plutôt l'origine du groupe et ce qui se passe un petit peu avant. Donc, on est, c'est vrai, tous assez spécialisés, mais on se parle et on travaille aussi quand même ensemble.
C'est comme Jésus-Christ dans l'histoire humaine, il y a le avant et après les dinosaures.
Voilà, du coup, les dinosaures deviennent un repère temporel, même s'ils ne devraient pas, puisqu'ils existent encore aujourd'hui. Ils ont une répartition stratigraphique de 230 millions d'années, donc comme repère temporel, on fait mieux. Mais pour marquer un petit peu les esprits, il y a un petit peu l'avant et l'après-dinosaure, effectivement.
Voilà, il faut rappeler que les dinosaures sont encore là, sous la forme de poulets, pigeons et oiseaux, voilà, quel qu'ils soient. Donc c'est une bonne nouvelle. Peut-être donner un peu un petit aperçu de votre époque, l'époque que vous étudiez. Ça ressemble, la Terre ressemblait à quoi? Et peut-être Nantes même.
Alors Nantes, je ne sais pas, mais... La Terre, en fait, était représentée sous un unique continent, qu'on appelle la Pangée, qui regroupait un ensemble en fait au nord, et puis une sorte d'ensemble aussi au sud, le Gondwana et la Laurasie. Et au milieu ne coulait pas un fleuve, mais il y avait une chaîne de montagnes en fait assez élevée en fonction des âges géologiques, qu'on appelle la chaîne hercynienne ou la chaîne varisque aussi. Le terme existe dans les manuels de SVT en fait au collège, lycée. Et au centre de cette chaîne de montagnes et autour de cette chaîne de montagnes qui longeait à peu près l'équateur de l'époque, il y avait beaucoup de lacs, beaucoup de rivières, beaucoup de marécages qui piégeaient entre guillemets les formes de vie, aussi bien végétales qu'animales, qui se développaient et qui évoluaient en fait sur cette planète. Alors le climat était assez chaud, tropical, pardon, humide, avec un taux d'oxygène très élevé. Ce qui nous permet d'expliquer l'apparition de certaines formes géantes, notamment des libellules de 70 cm d'envergure, des salamandres de 6 mètres de long, des araignées d'un mètre ou deux de diamètre, des mille pattes de 2 mètres de long, tout un bestiaire en fait presque sorti tout droit d'un scénario de science-fiction, mais pourtant on a des traces réelles, des fossiles, hein, qui sont des restes en fait organiques d'espèces anciennes qui existent encore aujourd'hui ou disparues. On va voir que dans Jules Verne, Verne aimait bien faire ressurgir du présent narratif en fait des espèces soit cachées via la cryptozoologie, soit des espèces disparues via la paléontologie. Hein. Il était très au fait des découvertes en fait scientifiques de l'époque. Et ce monde-là s'est préservé du coup sous forme de fossiles et de ce qu'on appelle des bassins sédimentaires. Que l'on trouve encore aujourd'hui de par le monde ou en France, je pense au bassin d'Autun par exemple en Saône-et-Loire, ou le bassin de Brive, le bassin de l'Odève aussi, Il y a d'autres bassins dans le monde et du coup on parcourt le monde à la recherche de fossiles en fonction de nos spécialités, soit post-dinosaures, soit anté-dinosaures.
Et vous êtes aussi amateur, créateur de science-fiction. Vous avez écrit avec Marc Boulet un livre qui s'appelle « Demain, les animaux du futur » avec Pierre Bordage et Roland Lehoucq. Vous avez contribué au livre « Exquise planète ». C'est des livres dans lesquels vous faites de la biologie spéculative. Donc ça, c'est peut-être quelque chose dont on pourra parler, puisque c'est quand même une idée assez intéressante de savoir si les lois de l'évolution permettent de prédire l'évolution future justement des espèces. Et dans la revue Planète Jules Verne, donc de cette année, vous avez écrit un article sur les espèces qu'on dit panchroniques ou espèces éternelles ou fossiles vivants. Ça, c'est l'expression de Darwin, je crois. Est-ce que vous pouvez rapidement en deux mots nous parler de ces espèces? On pense au sélacanthe par exemple, ce poisson qui a très peu évolué, en fait qui a beaucoup évolué mais dont les traits ont assez peu évolué.
C'est ça, en fait on a tendance à utiliser encore le terme de Darwin, fossile vivant, parce que il est très parlant.
Aujourd'hui, c'est incorrect scientifiquement.
On préfère parler aujourd'hui d'espèces panchroniques. Alors c'est pas pour faire du politiquement ou du scientifiquement correct, mais c'est pour bien montrer que l'évolution n'est pas du coup une ligne droite, et que c'est pas parce qu'on trouve un fossile dans une couche sédimentaire donnée qu'il est forcément l'ancêtre en fait d'une espèce actuelle. On considère maintenant l'évolution des espèces comme une arborescence très buissonnante, et on met finalement quasiment toutes les espèces au même niveau, et on va essayer d'étudier les relations de parenté de ces espèces et non pas leur relation de descendance directe. Du coup, on préfère le terme d'espèce panchronique, et quand on pense à Jules Verne, bien, déjà le premier animal, entre guillemets, en tout cas le premier terme, c'est le Nautilus. Et le Nautilus, c'est le Nautile, bien sûr, le genre Nautilus et l'espèce Pompilus qui reste encore aujourd'hui dans sur notre belle planète, dans les océans, qui est un cousin lointain des ammonites. Les ammonites étaient des mollusques céphalopodes, des sortes de pieuvres, si vous voulez, mais qui vivaient dans une coquille spiralée dont on retrouve beaucoup de fossiles. Et à l'époque, c'était un monde, en fait, un peu comme les poissons osseux aujourd'hui, et les ammonites et les nautiles évoluaient dans ces océans à l'époque des dinosaures. Et aujourd'hui, il reste le nautile, qui est une espèce très intrigante, qui est en plus capable de plonger à très grande profondeur en fonction du jour et de la nuit pour aller grignoter les petites particules ou les petits poissons en fait dans l'océan. C'est une espèce soit suspensivore, soit prédatrice en fonction de l'âge individuel des animaux. Et en plus, cette coquille spiralée est très intéressante parce que elle permet justement à l'animal de résister contre des pressions énormes au fond des océans. D'où l'inspiration vernienne du Nautilus pour exprimer un outil, un submersible en fait très perfectionné. Aujourd'hui ça s'appelle la bionomique, hein, copier en fait la nature à des fins de technologie. Eh bien Verne finalement a aussi participer à cette émancipation de la bionomique.
Donc la revue Planète Jules Verne, c'est une expression de la culture scientifique nantaise. Donc on a aussi aujourd'hui Agathe Petit, qui est journaliste scientifique et rédac chef du Labo des Savoirs. Donc le Labo des Savoirs, une fantastique émission de radio qu'on pourra écouter tout à l'heure. À quelle heure d'ailleurs?
À partir de 13h30, voilà. À partir de 13h30 au Club Atlantique.
Le Club Atlantique qui est juste là-haut.
Voilà, exactement, dans le cadre du colloque Atlantis.
Et l'émission du jour, ce sera...
Émission du jour consacrée donc à la légende de la ville d'Is, qui est un peu l'Atlantide celte, pour résumer très brièvement, et sur les mythes de submersion plus largement.
Et donc le Labo des Savoirs, donc c'est une émission de radio hebdomadaire.
Absolument.
De culture scientifique diffusée sur un grand nombre de radios en France et ailleurs.
Mmh, en France, en Belgique.
Ça fait combien de radios en tout?
25. 25.
Et la particularité, c'est que vous réalisez ces émissions avec une équipe de bénévoles. Oui,
une vingtaine de bénévoles cette année. Oui.
Voilà, ouais, s'il y en a dans la salle qui a envie de rejoindre l'équipe, ils sont les bienvenus. Et Agathe Petit, dans le numéro 5 de Planète Jules Verne, vous avez écrit un article sur des gens qui veulent disrupter l'évolution, pour reprendre une terminologie à la mode, les transhumanistes.
Oui, tout à fait. Ouais. Très à la mode.
Donc Kurzweil et ses amis, donc ils veulent mettre à mort la mort, ou ça c'est le pas de Kurzweil, je crois que c'est
quelqu'un
d'autre.
Oui, en tout cas, c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire. Ça, ce sont des grandes phrases assez... bon, finalement, qui ne veulent pas dire grand-chose, hein, compte tenu de la réalité scientifique actuelle. Effectivement, le transhumanisme, qui est une part peut-être moins grande de l'œuvre de Jules Verne, mais qui est effectivement, qu'on peut trouver par petites touches dans certaines de ses œuvres. Une dizaine, hein, finalement, puisque l'œuvre de Jules Verne, elle est composée d'une soixantaine d'ouvrages, et il n'y en a qu'une petite dizaine, finalement, qui sont très branchées science. Mais c'est celle-ci qu'on a retenue. C'est ce qui fait aujourd'hui sa célébrité posthume. Et je pense que enfin, voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui.
Il y avait quelques mots quand même sur les transhumanistes, ou le transhumanisme, même si on en parle beaucoup, c'est un sujet très médiatique, peut-être un peu trop comparé aux forces en présence. Mais,
un peu trop, oui.
Les projets transhumains, c'est l'humain augmenté, c'est-à-dire de...
Alors, en fait, c'est déjà deux choses différentes. Quand on parle d'homme augmenté, on n'est pas encore dans le transhumanisme dont on parlait il y a quelques secondes, ce qu'on nous vend aux États-Unis et ce que Google essaye de nous faire, ce vers quoi Google essaye de nous faire aller. On est plus effectivement aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'homme augmenté, donc la réparation de l'homme à travers les prothèses myoélectriques notamment, les exosquelettes, le travail sur les cellules souches qui peut être fait aujourd'hui. Et voilà, on n'est pas encore finalement dans le transhumanisme tel qu'on en parle aujourd'hui.
Et beaucoup de discours prophétiques, en tout cas sur
tout à fait.
La fin de la mort à l'horizon, je ne sais plus quoi, c'est l'horizon 2020 pour l'Union européenne, souvent là c'est l'horizon plutôt, la grande singularité 2040, je ne sais plus quoi,
ouais, c'est ça.
Ça a été dit. Ça c'est l'article que vous avez rédigé dans Planète Jules Verne, mais il y a un autre article qui est lié à votre travail, c'est un article sur le projet de la trame du temps. Et ça, c'est intéressant puisque ça rejoint beaucoup les travaux de Jean-Sébastien Steyer. Donc,
absolument.
La trame du temps, c'est une machine à remonter dans le temps et dans l'espace aussi. Ça, c'est intéressant.
Un tramway, finalement.
Un tramway.
Un tramway à remonter dans le temps. Oui, vous venez d'en faire un bel écho. Hein,
donc, c'était une proposition qui a été présente sur la ligne 1 du tram à Nantes du mois de mai au mois d'août, je crois que c'est ça.
Du mois de juin.
Le mois de juin.
Au mois d'août, dans le cadre du voyage à Nantes, de l'arrêt gare maritime à l'arrêt gare SNCF.
Alors, ce qui se passait, c'est qu'à l'arrêt gare maritime débutait, c'était pas l'apparition de la vie sur Terre, puisque ça... En fait, l'idée, c'était de faire une frise chronologique représentant...
Les temps géologiques. À l'échelle de la ville, ouais.
Mais pas l'histoire de la vie sur Terre, puisque ça amenait, je crois, à la centrale de Cordemais.
Ouais, c'est ça.
Vous avez démarré aux organismes pluricellulaires, c'est ça?
C'est ça.
Donc ça, c'était gare maritime, et donc l'humanité, ça représentait à peu près 20 cm au niveau...
Sur cette ligne, ouais. Sur cet arrêt.
Et l'époque de Jean-Sébastien Steyer, c'était quel arrêt, ça?
Manufacture.
C'était... Manufacture.
Mais ouais.
Donc vous étiez à Manufacture.
C'était l'arrêt Manufacture.
Bon, bah, j'y vais.
Et si l'exposition n'est plus là, puisque donc il y avait une superbe expo, donc avec des cartes de Nantes aux différentes époques géologiques, voilà, l'idée c'était de représenter, de rendre sensible en fait ces dimensions temporelles. Donc ça, c'est dans la question du temps, il y a aussi peut-être la question du cerveau humain qui est peut-être un peu désarmé sur les questions de long terme.
Comment appréhender ces dimensions effectivement?
Comment représenter ce qui se passe sur des échelles de millions d'années, quand l'Homo sapiens est là depuis 300 000 ans et quelques. Il y a une autre expo que vous aviez fait qui a été faite par le Labo des Savoirs dans l'UNESCO, c'était de représenter sensible le système solaire à grande échelle.
Toute proportion gardée.
Ouais. Où le soleil était au centre de Nantes et donc les planètes dispersées dans la ville. Mm-hmm. La trame du temps, donc on peut plus la voir. Donc il y avait des magnifiques dessins qui étaient présents sur les obètes de tramway, mais l'exposition est présente ici aux Utopiales.
Tout à fait, oui, donc, à quelques dizaines de mètres de nous.
Je continue à présenter nos invités avec Jean Bonichon, qui est tout au bout. Donc vous êtes artiste. D'habitude, on dit artiste et puis on met un épithète après, mais vous, j'ai cru comprendre que c'était un peu difficile puisque vous êtes sculpteur, vidéaste, écrivain, photographe et protéiforme. J'ai vu dans...
Protéiforme, oui. Bon, écrivain, c'est un grand terme. Hein. J'écris quelques bafouilles de temps en temps.
Peut-être que ça suffit pour se dire écrivain, alors. Est-ce que vous pouvez présenter, donc, dans Planète Jules Verne, vous présentez une exposition qui s'appelle Chaosmos, qui est présente au musée Jules Verne. Et dans le cadre du voyage à Nantes, vous avez aussi également fait, vous avez mis cette œuvre au mini-golf du camping municipal de Nantes. qui est un lieu assez insolite, ça correspond très bien à l'idée du voyage à Nantes. Est-ce que vous pouvez peut-être présenter, vous le ferez sans doute mieux que moi, l'exposition Chaosmos?
Ouais, d'une manière assez succincte, oui, Chaosmos, c'était plutôt une invitation d'Agnès Marcetto, la conservatrice du musée Jules Verne, et où j'avais choisi effectivement de travailler autour de Jules Verne et de son œuvre, ce qui était un peu le pendant d'ailleurs de la pièce pérenne qui est présentée donc au mini-golf de Nantes. Et en fait, parce que Jules Verne est quelque part un des premiers surréalistes, on retrouve aussi ça dans les écrits d'Edgar Allan Poe, d'écrivains de cette époque en fait, et puis Lewis Carroll aussi également. Et en fin de compte, il y a du coup, c'est un champ d'exploration, parce que là on parle aussi du temps en fait. Je crois ce matin la thématique. Moi, je viens de découvrir la revue, hein, comme beaucoup en fait. Ce matin, et en fait,
on est là pour ça, pour la découvrir.
Voilà. Donc, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais bon, c'est pas très grave. Et en fait, il y avait toute une partie qui était en fait sur cette manière un peu décalée qu'avait Jules Verne de regarder l'univers et la technique, la science, ces choses-là, et qui a fait d'ailleurs, qui était pas si décalé que ça, parce qu'en fait, dans le décalage, on s'aperçoit souvent que, en fait, c'est les petits décalages qui font avancer les choses. C'est ce qui est assez surprenant d'ailleurs dans l'humanité. Ce qui est rien de darwinien d'ailleurs, hein. L'humain, il est là depuis, je crois, alors là, si je voudrais une confirmation, c'est on vient de découvrir le premier hominidé 300 000 ans. C'est ça, 300 000 ans.
Oui, au Maroc.
Voilà, 300 000 ans. Donc, en fin de compte, de toute façon, l'être humain, il est posé. Il est là, il existe. Mais en revanche, la seule chose qui puisse faire évoluer l'humanité, c'est la manière dont il fait fonctionner son cerveau et en fait, comment on alimente en fait, cette machine qui est extraordinaire, en fait, qui est la machine cérébrale qui nous habite tous et qui nous fait, en fait. Ce qui fait la singularité de chacun, d'ailleurs. Et donc il y avait une partie qui était sur cet esprit un peu vernien, un peu surréaliste, qui a habité très tôt l'art, hein, d'ailleurs. Et on peut retrouver dans l'étoile de Bosch, dans des choses. Mais et si on remontait encore plus loin, on retrouve ça en fait dans les mythologies, dans les cosmogonies, en fait, dans toutes les choses que l'humain a pu trouver pour pouvoir appuyer son existence et savoir comment se tenir debout, en fait. Et après, il y avait une autre partie qui était plus sur un temps, mais qui était un temps d'atelier, c'est-à-dire une réflexion sur qu'est-ce qu'un travail d'artiste, c'est-à-dire comment mettre quels sont les enjeux, les mises en œuvre, parce qu'un artiste, en fin de compte, c'est ce que j'ai tenté de mettre en avant dans le texte que j'ai écrit, qui est dans la revue. En fait, un artiste est un ingénieur, en fin de compte, parce qu'il est obligé d'inventer ses propres procédés, ses processus, pour pouvoir arriver à la finalité qu'il s'est fixée. Sachant qu'il est dans une phase expérimentale, on n'est pas très loin de l'alchimie ou quelque chose de l'exploration. Et en fin de compte, en fait, l'artiste va chercher par tâtonnement et trouver ou pas la solution à ce qu'il veut faire. Quoi qu'il en soit, c'est cette recherche, et je crois que c'est ce qui fait avancer les choses. Et je crois que c'est le propre de l'humanité aussi. C'est-à-dire de ne pas chercher un but, bon, même si là on est un peu dans l'urgence à l'heure actuelle, puisque effectivement, on parle du temps, mais on pourrait parler du temps, le même temps. C'est une singularité d'ailleurs de la langue française que d'appeler le temps, en fait. C'est-à-dire, on a à la fois la météo et à la fois en même temps l'espace-temps, en fait. Et donc, on est un petit peu dans une forme d'urgence. Donc, effectivement, mais en fait, de réfléchir qu'est-ce qu'un temps d'atelier, comment un processus créatif se met en œuvre. Quelque chose qui est très proche de l'archéologie au final, parce qu'en fait tout est poreux entre les différents médiums. Donc les artistes sont quelque part des scientifiques eux aussi. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de mettre en avant, et donc voilà, si j'ai pu présenter.
Alors j'ai passé un invité, c'était pas pour être impoli, c'est que Sydney Bernard, bonjour, vous êtes l'invité surprise de cette table ronde. Vous êtes comédien et vous avez, vous, au musée Jules Verne, organisé des visites théâtralisées. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quoi ça consiste?
Oui, alors le point de départ, c'est d'abord parce que j'ai monté 20 milieux sous les mers il y a plus de 10 ans au théâtre. Et cette aventure théâtrale, on en est à la 800e aujourd'hui, le spectacle continue. M'a amené vraiment à rentrer dans l'œuvre de Jules Verne totalement, parce qu'on peut pas monter au théâtre un spectacle comme ça, surtout que c'était la première fois qu'on montait 20 milieux sous les mers, sans plonger, sans faire de jeu de mots, à l'intérieur de l'œuvre totalement, pour en sortir l'essence théâtrale. Et c'est, ça tombe bien parce que Jules Verne, c'est un auteur de théâtre avant tout. Moi, pour moi, tous ses romans, ce sont des pièces de théâtre. D'ailleurs, il ne s'est pas privé d'en monter beaucoup au théâtre. Donc voilà, ça m'a fait rentrer dans cette œuvre complètement pour créer un personnage, le professeur d'Aronnax, professeur d'histoire naturelle, qui va donc rencontrer Nemo, le Nautilus et compagnie. Et à partir de là, j'ai vraiment bâti toute une histoire au cœur même de l'œuvre de Jules Verne, puisqu'il a fallu que je lise quasiment tout Jules Verne pour pouvoir comprendre 20 000 lieues. Et ensuite, eh bien, avec ce savoir, entre guillemets, en tout cas ce patrimoine, Agnès Marsateau m'a demandé si je pouvais faire des visites, spectacles au musée Jules Verne pendant un an. Alors donc là, je me suis retrouvé face à un autre problème, c'est que bon, le comédien, il est sur scène, il joue, il a un public qui est loin, quelque part, il est détaché d'un rapport, même si ce rapport existe complètement dans une scène de théâtre, il est protégé en tous les cas. Là, j'étais vraiment face avec le public, et surtout, le public questionne, le public interroge. Donc il a fallu que j'aille encore plus loin dans la connaissance de Jules Verne, parce que là, j'étais chez lui. J'étais pas chez moi. Une scène de théâtre, c'est chez moi. Je vais dans n'importe quel théâtre, ça y est, j'arrive, je suis chez moi, je plante mon décor. Là, j'étais chez Jules Verne. Et donc, il a fallu vraiment que là, je rentre à l'intérieur même de son intimité, de tous ces petits détails qui font que l'œuvre est multiple. Et donc voilà. Et donc pendant un an, eh bien, j'ai comme ça, une ou deux fois par mois, emmené le public. Alors au début, ça durait trois quarts d'heure. Puis après, c'est devenu une heure. Après, c'est devenu une heure et demie. Puis je crois que j'ai fini à deux heures avec le public qui m'a suivi pendant tout le dédale des salles. Et ça s'est arrêté. Sinon, je pense que j'en serais à trois heures.
Et vous êtes donc aussi dans cette revue-là. Alors voilà, ce qui nous réunit, donc, c'est cette revue Planète Jules Verne. Et la question du temps, tâche difficile pourtant d'animer une table ronde avec un panel aussi large d'artistes, journalistes et chercheurs, mais on va s'y atteler. Peut-être je vous propose d'intervenir, dès que vous avez des choses à dire, à compléter. Jean-Sébastien Steyer, peut-être pour faire le lien entre vos recherches et l'article d'Agathe Petit sur le transhumanisme, est-ce que j'aimerais bien vous demander comment vous regardez l'homme en tant que biologiste, en tant que paléontologue plutôt, sur le temps long. Est-ce que ça veut dire que c'est une espèce qui a réussi ou...
L'homme est très... C'est une espèce très récente, 300 000 ans. Alors ça nous paraît énorme à nous à l'échelle humaine, c'est le cas de le dire, ou individuelle plutôt. Mais à l'échelle de l'espèce, c'est pas grand-chose, parce que quand on fait des statistiques sur les durées de vie moyennes des espèces au cours des temps géologiques, on a... Alors, ce sont des moyennes vraiment à prendre à la louche, enfin avec des pincettes plutôt, parce que souvent les écarts-types sont supérieurs en fait aux moyennes en question, mais en gros, si vous êtes un vertébré, vous avez à peu près 1 à 5 millions d'années quand même de durée de vie possible en tant qu'espèce, hein. Et si vous êtes un invertébré, donc tout ce qui est mollusques, arthropodes, insectes, méduses, etc., vous avez un peu plus de chance, c'est un facteur 10. Donc autour de 10 millions d'années quand même. Donc 300 000 ans par rapport à tout ça, c'est pas grand chose. On est très jeune en fait en termes d'espèces. Et ensuite, si on rajoute la dimension temporelle de la Terre a 4,55 milliards d'années, ça fait 4550 millions d'années. Bon, à Nantes, vous l'avez très bien représenté, ce parcours du tram du temps. On voit très bien, et on se rend compte qu'il faut passer beaucoup d'arrêts de tram avant d'arriver finalement au premier dinosaure. C'est comme l'exemple classique en fait d'explication de l'immensité des temps géologiques. Quand on prend la longueur d'un bras, je fais ça souvent dans les écoles, et je dis voilà, l'origine, la formation de la Terre commence au niveau de mon épaule, le temps actuel est au bout de mon doigt. Je demande aux enfants, où mettez-vous les dinosaures? Et ils me disent tous, à peu près au niveau du coude, alors que c'est plutôt au niveau du poignet. Donc déjà, il y a un facteur temps proportionnel en fait énorme, et du coup l'homme est une étincelle finalement dans cette immensité en fait des temps géologiques.
Une grosse étincelle qui a laissé des traces. Peut-être il y a la question dont parlait Jean Bonichon tout à l'heure, l'urgence, c'est puisqu'on parle du temps ce matin et cette semaine aux Utopiales, c'est quand on parle de l'anthropocène et du réchauffement climatique, c'est la rapidité des changements, plus que les changements eux-mêmes, c'est la rapidité qui est,
alors, voilà,
qui est vraiment frappante.
Alors c'est une espèce très jeune, mais elle a un impact en fait considérable sur son propre environnement. C'est ce qu'on appelle d'une manière assez générique une espèce ingénieur. C'est le cas partiellement d'autres espèces vivantes. On peut penser aux sangliers, par exemple, qui sont capables de labourer, quand même, de modifier en fait leur environnement plus ou moins proche pour habiter l'environnement, pour se nourrir, pour construire. Hein. On peut penser aux barrages hydriques entre guillemets des castors aussi. Donc il y a plusieurs espèces naturelles qui sont ingénieures, et la nôtre, elle est ingénieure et elle a un impact tellement fort qu'elle modifie en fait l'environnement. C'est tout ce qu'on appelle le pic anthropique. En jargon biologiste ou paléobiologiste, c'est-à-dire on observe en fait des pics d'augmentation des gaz à effet de serre, d'augmentation de température, et c'est corrélé avec le pic anthropique, c'est-à-dire l'augmentation de l'activité humaine et de la révolution en fait industrielle. Donc nous modifions non plus substantiellement notre environnement, mais drastiquement notre environnement, avec les conséquences actuelles de pollution. On vide les océans de ces poissons, déforestation, morcellement des environnements, des aires de répartition géographique des espèces, donc disparition d'abord locale et puis générale si on continue à ne rien faire et à débattre sur l'anthropocène, alors que c'est le fameux adage, quand on ne sait pas résoudre un problème, on change de nom le problème en question. Et j'ai l'impression que quand on parle d'anthropocène, le débat autour de l'anthropocène, est-ce qu'on doit parler d'anthropocène ou pas ? Moi, personnellement, je parlerais plutôt de poubellien pour exprimer... Déjà, anthropocène, je trouve que c'est très anthropocentrique, comme son nom l'indique presque. Pourquoi l'homme devrait affubler une ère géologique de son nom ou de sa propre existence ? Et puis deuxièmement, débattre sur à partir de quand on place la limite entre ou le début de l'anthropocène. Bon, ce sont des questions un peu des débats comme sur le sexe des anges, en gros, et je pense qu'il y a effectivement urgence. Plutôt que de débattre, essayons de... alors il faut en parler, il faut sensibiliser, hein, ça me fait penser à une journaliste d'investigation dans le monde diplomatique qui disait grosso modo, bon, les COP, la COP21, la COP22, etc., finalement ça sert à rien puisque on ratifie à peine nos traités en fait de baisse de production, etc., sur nos modes de vie en fait et nos modes de transport et la recherche en fait fondamentale pour trouver des énergies renouvelables. Mais quand même, le fait d'en parler, ça peut éveiller un petit peu les consciences. Donc c'est vrai qu'on peut voir le côté positif dans cette urgence quand même.
On peut rajouter...
Je ne veux pas vous plomber votre journée, en fait.
Oui. On peut rajouter...
Si je peux me permettre, s'il vous plaît, à propos de... aujourd'hui, c'est la présentation de Planète Jules Verne, mais apparemment, Jules Verne, pour avoir un petit peu lu et fouillé, moi aussi, parce que c'est vrai que Jules Verne, quand on s'y frotte, on est obligé de s'attaquer à son œuvre. Et avec le mini-golf, j'ai été obligé. Et considéré, en fait, comme apparemment, aurait été considéré comme un des premiers écrivains écologistes. Voilà. Voilà, exactement, où il a mis le doigt sur des questions d'environnement, en fait, où il a condamné aussi l'incidence que pouvait avoir l'humain sur en fait la science. Exactement, il était très critique. On croit que Jules Verne était quelqu'un qui était un fan de science, mais d'après ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu trouver, c'est en fait Jules Verne était très critique envers les sciences et avait un regard justement très éloigné en se disant oui, on a des avancées, mais quelque part ces avancées sont dangereuses. Et ça, je crois que c'est assez notable en fait en ce qui concerne l'œuvre de Jules Verne en fait. C'était juste pour
Et je voulais rajouter quoi sur la critique qu'on peut faire à la notion d'anthropocène, c'est que d'attribuer une responsabilité générale à l'humanité, c'est donner la même responsabilité aux Indiens Achuar et aux Texans qui n'ont pas vraiment le même mode de vie avec le même impact. C'est notre critique. Fin de la parenthèse. Par rapport à ce que disait Jean Bonichon, Agathe, vous parliez tout à l'heure des petites traces dans l'œuvre de Jules Verne qui permettent de réfléchir à la question du transhumanisme, puisque c'est le thème de votre article. Ouais. C'est assez intéressant, ça, peut-être que dans un siècle, on trouvera, avec les thématiques qui seront d'actualité à cette époque-là, encore des choses dans l'œuvre de Jules Verne. On pourra toujours en tirer quelque chose. Est-ce que sur la question du transhumanisme, vous pouvez être plus précis sur comment Jules Verne imaginait ça, comment lui faisait de l'anthropologie prospective ou de, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, de la biologie prédictive avec l'espèce humaine.
Ouais, ça c'est un petit peu, peut-être aller un petit peu trop loin, mais disons qu'en fait Jules Verne c'est avant tout un vulgarisateur, effectivement, c'est quelqu'un qui est passionné de science, qui s'est emparé de certains sujets, qui a travaillé avec des scientifiques, qui a lu énormément et qui s'est imprégné de ses connaissances pour les retransmettre à travers ses différents romans. Donc ça c'est la première chose. Donc il n'a pas toujours été aussi dans la défiance par rapport aux scientifiques. Il a d'abord eu une phase, je dirais, de fascination qu'il a essayé de transmettre, et en ça je dirais qu'il est presque, c'est la première phase transhumaniste chez Jules Verne, c'est-à-dire déjà cette volonté déjà de penser à l'homme de demain et d'essayer de transmettre ses connaissances. Ensuite effectivement on a il y a des traces de méfiance par rapport notamment à cette capacité que pourrait avoir certaines élites, en tout cas une partie très restreinte de la population, de pouvoir contrôler le reste du monde à travers des technologies, des techniques, etc., des sciences qu'ils seraient les seuls à maîtriser. Et je dirais que c'est peut-être ce qu'il rapproche le plus de la thématique du transhumanisme, c'est cette crainte, effectivement, des inégalités, finalement, et de contrôle des populations. Ça, c'est une première chose.
Et Jean-Sébastien Seyer, moi, peut-être, je disais qu'on... Bah, ça sera intéressant d'en parler de la biologie prédictive. Là, sur la question du transhumanisme, comment vous imaginez l'humain de demain ? Donc là aussi, l'humain, les humains qui pourront se payer des bras artificiels et des cerveaux numériques. Du coup, est-ce que c'est possible ? Déjà, en deux questions, la biologie prédictive, en quoi ça consiste ? Est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce que les lois de l'évolution permettent de prédire l'évolution des espèces ? Ou est-ce que l'évolution, c'est beaucoup plus aléatoire que ça. Et la biologie prédictive à l'espèce humaine, qu'est-ce que ça donne ? À quoi ça ressemble l'espèce humaine dans un million d'années, puisqu'il nous reste quelques millions d'années selon les probabilités à vivre, enfin, les probabilités.
Alors, oui, effectivement, l'évolution des espèces, en tout cas, est tellement complexe et fait intervenir tellement de paramètres, plus ou moins naturels d'ailleurs, en fonction des environnements. On pense tous en fait au climat, bien sûr, on pense à la disponibilité en ressources nutritives, on pense à l'interaction entre les espèces, il y a aussi le brassage génétique qui est inhérent à chaque espèce, du coup il y a une infinité de paramètres, et il faudrait presque aujourd'hui un ordinateur quantique finalement pour modéliser en fait l'évolution. Donc du coup on ne sait pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle non pas de biologie prédictive, mais de biologie spéculative, parce que on n'est pas dans l'anticipation, on peut pas être dans l'anticipation, même dans le sous-genre, entre guillemets, de l'anticipation dans la science-fiction. On est vraiment dans un exercice intellectuel où sur des bases de données factuelles, connaissances des modalités évolutives au cours des temps géologiques de certains groupes, observation de convergence évolutive due à des contraintes physiques, typiquement quand vous prenez un requin, un dauphin et un reptile marin du temps des dinosaures, ils ont de loin la même silhouette parce que leur forme hydrodynamique a été retenue par la sélection naturelle, et on a des espèces de morphologie assez symétriques avec un organe propulseur à l'arrière, des organes latéraux, des nageoires, hein, ou des palettes natatoires en fonction de votre origine, qui sont stabilisateurs et qui permettent en fait la nage, la locomotion au milieu aquatique. Donc on peut parler, on peut s'amuser en fait, c'est un exercice intellectuel encore une fois pour projeter d'éventuelles formes vivantes dans le futur. Alors en ce qui concerne l'humain, il faudrait demander à un anthropologue en fait de se prêter au jeu de la spéculation. Ce qui est intéressant, c'est quand on se tourne en fait vers les auteurs, les autres auteurs de science-fiction, on observe souvent des convergences ou des morphotypes humains qui reviennent souvent. Quand on fait une analyse bibliographique des auteurs de science-fiction qui parlent de l'homme du futur, on a grosso modo trois grands types d'hommes du futur qui ressortent en fait des œuvres, que ce soit œuvres littéraires, œuvres cinématographiques, bandes dessinées ou même jeux vidéo. Vous avez typiquement l'homme souterrain qui retourne un peu à l'état bestial, les Morlocks chez Wells typiquement. Vous avez l'homme aquatique qui retourne en fait au milieu aquatique, alors avec ou pas réapparition de branchies externes, branchies qui, entre parenthèses, sont présentes à l'état embryonnaire chez nous et qui sont résorbées en fait au bout du 7 ou 8e jour de notre premier temps de développement embryonnaire. Et puis vous avez l'homme intersidéral qui part dans des vaisseaux embarqués, des vaisseaux transgénérationnels, qui va voyager au-delà du système solaire pour essayer de s'implanter en fait et de terraformer d'autres planètes, parce qu'on sait que notre temps est fini en tant qu'espèce qui vit non pas sur Terre mais dans ce système solaire. Notre étoile, le Soleil, est un type d'étoile donnée dont la durée de vie en fait est limitée dans le temps. Je crois qu'il nous reste à peu près 5 milliards d'années encore à vivre. Enfin, notre étoile a encore à peu près 5 milliards d'années à vivre. Bon, on a encore un petit peu de temps, mais dans 4-5 milliards d'années, en fait, le Soleil n'aura plus de combustible et donc va prendre à peu près les dimensions du système complet. Donc la Terre sera complètement soufflée par cette explosion temporaire en fait du Soleil, et bien avant l'augmentation, enfin la température sur Terre va augmenter, et au final on peut spéculer sur les dernières espèces qui seront présentes sur Terre ressembleront quelque part aux premières espèces qui étaient présentes il y a quelques centaines de millions d'années en fait sur la planète, c'est-à-dire des bactéries extrémophiles qui sont capables de supporter des températures extrêmes dans des milieux chimiques extrêmes aussi.
Exactement. N'hésitez pas à prendre le micro pour le, c'est enregistré, pour les archives.
Wells décrit dans La fin de la machine à explorer le temps un monde rempli d'insectes géants, puisqu'en fait à la fin il va dans le futur complètement. Donc c'est ce qu'il décrit. Mais c'est drôle ce que vous dites, parce que effectivement, pour revenir à Jules Verne qui imagine, parce que je ne crois pas qu'il ait créé d'être extra-humain, etc. Il a utilisé les sciences, mais il va sous l'eau avec son Nautilus. Donc quelque part, on retrouve ce côté poisson. Il va dans la Lune avec son vaisseau. En fait, il cherche un peu partout comment l'homme va évoluer. Mais pour en revenir toujours à Jules Verne, son roman quand même le plus anticipatoire, si ce mot existe, c'est Paris au XXe siècle, qui est le moins connu peut-être, qui a été découvert très tard, mais dans lequel il invente, entre guillemets, ou plutôt prédit, l'ordinateur, un monde sans art. En fait, sa peur au début, il a peur des sciences. Puis c'est après qu'il va s'intéresser. Mais au début, quand il écrit Paris au XXe siècle, c'est-à-dire avant ses grands romans, puisque c'est le premier roman que Hetzel va refuser, il ne sera pas publié, Paris XXe siècle, c'est son arrière-petit-fils qui va le découvrir. Il décrit Paris avec le métro, avec le fax, avec l'ordinateur, et surtout un monde où on a oublié l'art. L'art est interdit, on n'a plus le droit de lire, les livres ont été détruits, et je pense que enfin, ça rejoint un peu tout ça, parce que le fil conducteur, c'est l'artiste. Est-ce que l'humain, après tout, on s'en fout qu'on soit une machine ou pas, si on garde notre part artistique, c'est là la question. Est-ce qu'une machine peut garder cette part artistique, c'est-à-dire l'intuition, l'invention, le hasard, l'erreur, enfin bref, tout ce qui fait l'artiste. Et du coup, dans l'évolution, est-ce qu'on n'est pas le produit de toutes ces erreurs? Donc justement, moi je trouve que c'est passionnant de revoir aussi Jules Verne à travers tout son œuvre qu'il distille, mais effectivement aujourd'hui on a aussi des réponses, quoi.
Un gars, tu vois.
un seul, ça ira, merci. Oui, pour compléter effectivement ce que vous venez de dire, c'est ce qui est intéressant chez Jules Verne, c'est qu'effectivement, contrairement aux transhumanistes d'aujourd'hui, il n'était finalement pas tellement dans la spéculation, lui, puisqu'il se basait, et c'est très important dans son œuvre, et c'est ce qui peut-être en a fait un très grand visionnaire, parce que c'était pas un sorcier, loin de là, c'est qu'il ne se basait, il se basait vraiment sur les découvertes scientifiques de son temps qui étaient foisonnantes à cette époque-là, et il n'allait pas au-delà des certitudes scientifiques. Donc il se basait vraiment sur la faisabilité prochaine ou future, enfin voilà, sur un futur plus ou moins long, de ses découvertes. Et ça, c'est très important dans la construction de son œuvre.
Et c'était son opposition avec Wells. Wells et Verne, son contemporain, et Verne disait oui, qui nous le prouve que sa machine existe ? Moi, les miennes, je peux le prouver. Et c'est vrai que Verne faisait comme si ses inventions étaient là aujourd'hui. Alors que Wells anticipe soit dans le passé, soit dans l'avenir. Mais il prend son présent et il dit, voilà, ça existe. 20 milieux sous les mers, le Nautilus se passe en 1869. C'est-à-dire à l'époque où il écrit. Pas dans une époque future.
Un siècle après, il y a toujours le clash entre Wells et Verne. C'est comme un battle de rap qui dure éternellement.
On peut concilier un petit peu les deux en disant que, effectivement, Verne... met en scène des espèces du passé. Il avait très bien conscience en fait des découvertes paléontologiques dans Voyage au centre de la Terre. Il reconstitue d'une manière très précise et très exacte en fait une forêt du Carbonifère. Il avait une dimension en fait verticale du temps, Verne, des temps géologiques, de l'immensité des temps géologiques. Donc une dimension presque stratigraphique. Il était au courant en fait des traités géologiques, des grands traités stratigraphiques qui commençaient à être publiés à l'école. On pense à Lyell, qui était un géologue anglais, qui avait publié en fait Principes de géologie à la même époque, quasiment. Et donc on s'enfonce en fait dans le temps, dans le Voyage au centre de la Terre, comme si on s'enfonçait dans les profondeurs en fait des temps géologiques. Alors un petit peu inversé parce que on commence en termes de reconstitution paléontologique, on commence au Carbonifère avec cette immense forêt de prêles géantes, de fougères géantes qui reconstituent extrêmement bien, et on voit bien qu'il était au courant des publications scientifiques de l'époque qui étaient foisonnantes parce que à cette époque-là, on était en pleine époque d'exploitation du charbon. Et Carbonifère, ça vient de charbon, et ces couches en fait d'humus fossilisé qui livrent aujourd'hui le charbon, qui était exploité à l'époque dans différents bassins miniers de par le monde, en Angleterre, en France, en Allemagne, sur toute cette ancienne bande équatoriale justement, autour de cette grande chaîne de montagnes hercyniennes, il y avait des forêts immenses, des espèces de proto-jungles avec les animaux que je vous ai de science-fiction presque que je vous ai décrit tout à l'heure, mais avec des plantes tellement denses et tellement des forêts tellement épaisses que les couches d'humus, une fois ensevelies en fait dans les différentes couches de sol, formaient en fait ce charbon. Et quand les mineurs descendaient en fait dans les mines à l'époque, ils avaient une prime quand ils remontaient en surface des magnifiques fossiles de fougères ou des magnifiques fossiles de salamandres géantes, etc. Et les premières collections en fait naturalistes des muséums d'Europe se sont faites notamment grâce à l'exploitation industrielle qui servait justement de moteur pour ce courant progressiste dans la confiance plus ou moins ténue en fait dans les sciences et techniques. Et donc Jules Verne utilisait bien sûr toutes ces données-là, il reconstitue cette forêt, et puis ensuite l'équipe de Voyage au centre de la Terre va découvrir cette espèce de lac souterrain immense, de mer souterraine immense avec des reptiles marins. Alors là, on passe à un milieu... anciennement pétrifié végétal à un monde animal terrible puisqu'il assiste à les aventuriers assistent à un combat entre un ichthyosaure et un plésiosaure, et la reconstitution que donne Jules Verne de ce combat et de ses formes de vie est exacte, en fait. Il colle réellement aux données scientifiques de l'époque. Il savait qu'il y avait chercheurs anglais dans le Dorset, dans le Jurassique du Dorset anglais dans cette région-là, notamment une certaine Marie Anning, qui était une des pionnières, en fait, en paléontologie, une première femme paléontologue, qui récoltait, qui ramassait et qui participait à toutes ces études nouvelles de ces reptiles marins. Alors, le seul petit reproche qu'on pourrait lui faire, c'est qu'il a augmenté la taille de ces espèces, presque pour des raisons romanesques ou cinématographiques. Mais je pense que c'était pas le premier. Il multiplie quand même par 10 la taille. C'est c'est quand même beaucoup, mais il était sans doute pas le premier, et puis il n'est pas le dernier, puisque c'est un prétexte cinématographique qui est souvent utilisé. Je pense que vous avez tous vu Les Dents de la Mer de Spielberg. Spielberg, en fait, augmente volontairement la taille des dents du requin blanc pour accentuer le côté monstrueux et donc cinématographique, en fait, de l'espèce. Jules Verne faisait un petit peu la même chose en agrandissant, en fait, la taille de ces organismes-là.
Après, je crois que ça, c'est ce qu'on entend beaucoup aux Utopiales tous les ans, c'est qu'on peut exagérer, et ça, c'est beaucoup les thèmes des conférences inaugurales de Roland Lehoucq, que c'est pas très grave d'exagérer, du moment qu'on garde une crédibilité, un appui sur des faits scientifiques tangibles. C'est un peu plus grave quand Jurassic Park représente des dinosaures sans plumes, alors qu'ils avaient des plumes et que c'était des gros dindons, et que ça aurait été très rigolo de les voir comme ça. Mais bon, là, c'est pas grave. Agathe, ouais. Si vous vouliez réagir, peut-être.
Non, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et c'est vrai que pour revenir sur l'aspect spéculatif, en fait, je crois que tout tient dans ce mot-là. Quand on commence à parler du futur, de transhumanisme, etc., quand on parle par exemple de spéculation en économie, tout le monde fait des bons, tout le monde se méfie. Et ben, certes, la science ne ruine personne. En revanche, bon, voilà, ça veut quand même dire qu'il faut s'en méfier et qu'il faut garder une certaine distance avec ce que l'on entend, entre ce que les chercheurs veulent faire, là où ils veulent aller et là où ils peuvent aller. Il y a quand même toujours un fossé plus ou moins grand.
Par rapport à ce que vous disiez, Jean-Sébastien Steyer, est-ce que Jules Verne avait lu Darwin ? Alors on imagine que oui, mais est-ce qu'il l'avait bien lu ? Puisqu'après tout, il a été relu tout au long du XXe siècle, Darwin, donc beaucoup de gens l'avaient assez mal lu. Et qu'en est-il de Jules Verne ?
Alors, Jules Verne et Darwin, c'est presque un sujet d'Agreg. Vous avez 4 heures, on ramasse les copies.
Il reste 20 minutes, je crois.
Alors, c'est intéressant parce que leurs écrits, en tout cas, étaient contemporains, quasi contemporains. Darwin, c'est 1859, De l'origine des espèces, où il pose pour la première fois d'une manière formulée scientifiquement parlant la théorie, en fait, de la sélection naturelle. Et avant Darwin, il y avait quand même Lamarck, 1809, français, philosophie zoologique. D'ailleurs, 1809, c'est l'année de naissance de Darwin. Et donc, en fait, Jules Verne connaissait ces œuvres-là. À l'époque, la notion d'évolution commençait quand même à percer dans un milieu et des traditions globalement, entre guillemets, créationnistes, du fait du poids de la religion, du fait du poids des traditions. Mais Jules Verne avait conscience de tout ça. Mais lui cite tout de même Darwin, notamment pour son côté exploratoire, ce qui retient le plus, en tout cas, dans ces deux, trois grandes œuvres phares, Voyage au centre de la Terre et 20 milieux sous les mers notamment, c'est le côté exploratoire de ces voyages naturalistes. Il utilise et il cite Darwin quand il fait référence, en fait, à la construction naturelle de ces atolls au milieu des mers par construction, en fait, récifale autour d'anciens volcans qui sont effondrés. On a des espèces de constructions qui émergent et qui donnent ces fameux atolls qu'on observe encore de moins en moins, malheureusement, à cause de la remontée des eaux globales et donc du réchauffement climatique. Mais Jules Verne reprend un petit peu ses principes, en fait, et ses observations naturalistes.
Oui, d'autant plus que Jules Verne ne va pas écrire que des romans fantastiques, il va aussi écrire l'histoire des grands explorateurs, il va écrire toute l'histoire de la géographie française, département par département, mais l'histoire des grands explorateurs. Et c'est vrai que de Darwin, il garde, parce que Darwin, toute son histoire commence par un grand voyage, et c'est de ce voyage-là qu'il va garder effectivement, on va dire, si on peut dire, une influence. Par contre, Wells, travaille avec Huxley, travaille avec un des collaborateurs de Darwin. Donc, et c'est peut-être la grande différence. C'est-à-dire que Verne va travailler sur toutes les sciences, les voyages, les découvertes que l'humain fait, alors que Wells va plus travailler sur l'humain et anticiper sur ce que l'humain peut ou pas devenir. Mais c'est vrai que Verne, c'est pas tellement son problème. Verne, par contre, c'est le voyage. Qu'est-ce que l'humain fait sur cette terre? Comment il utilise les outils, les moyens qu'il a ici sur cette terre au moment où il vit?
Jean Bonichon.
Ça serait peut-être une question, alors peut-être Jean-Sébastien et Agathe pourraient répondre. En fait, c'était par rapport à l'évolution justement darwinienne et tout. Maintenant, on commence à appréhender que l'animal a une intelligence, en fait. Donc, quelle est la part de l'intelligence animale dans l'évolution, en fait, puisque jusqu'à maintenant, on prenait l'animal comme presque un objet, quasiment, en fait. Et donc, il évoluait parce qu'en fait, il fallait qu'il mange, il fallait que... Donc, voilà. Mais on commence à se rendre compte, et je crois qu'on s'en rend d'autant plus compte que, je le disais tout à l'heure, il y a urgence. Donc, je crois que les animaux sont dans une forme d'intelligence, donc sont obligés de réagir face à cette urgence. Donc, quelle est la part de l'intelligence animale, même si on en est aux prémices de se rendre compte de cette chose-là, en fait, chez les animaux? Quelle évolution, en fait? Quelle est la... Voilà, en fait.
Elle est de plus en plus présente, effectivement, et elle est de plus en plus prise en compte, on se rend compte, grâce à notre meilleure connaissance des phénomènes évolutifs, que déjà, l'homme n'est pas un résultat de l'évolution. L'homme n'est pas sur son piédestal la finalité de l'évolution. Alors, déjà, on a pris une grosse baffe quand on s'est rendu compte que ce n'était pas une création. Ensuite, on s'est dit, bon, s'il y a évolution... Alors quand même, l'homme, c'est le point oméga de l'évolution, la finalité même de l'évolution. Et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Après l'homme, l'évolution va continuer son bonhomme de chemin, ou plutôt cette espèce d'arborescence fractaloïde, contingente et multiple. Donc deuxième baffe. Et puis troisième baffe, effectivement, découverte de l'intelligence animale. Ah, zut, on n'est pas les seules intelligences sur la planète. Mais que fait la police scientifique, en gros? Donc, et cette intelligence animale qui est présente chez de nombreux groupes ou chez de nombreux clades, elle est de plus en plus observée. On prenait par exemple les cétacés, les dauphins. Les dauphins jouent, en fait. Alors le jeu, on peut se demander pourquoi, avec un œil naturaliste, pourquoi des espèces perdent, entre guillemets, leur temps, je fais exprès d'utiliser le mot perdre, à jouer, alors que le but, c'est de manger et de se reproduire pour la transmission des gènes. Et ça, c'est encore un grand point d'interrogation. Et c'est ça qui est intéressant dans un concept, dans un contexte, pardon, évolutif. Non seulement les cétacés jouent, mais en plus, il y a d'autres formes de vie, autres que les humains, qui font de l'art. Hein, on pense par exemple au land art aquatique des céphalopodes, les pieuvres. Elles s'amusent à empiler en fait des petits cailloux de différentes formes, de différentes couleurs qu'elles choisissent dans leurs environnements pour faire du land art. Pourquoi? Est-ce que c'est pour attirer en fait des congénères, et un petit peu comme les oiseaux, certains oiseaux construisent des nids magnifiques qui sont complètement temporaires, parce que après la saison des amours, souvent ce sont des nids qui sont au sol et ils sont détruits par d'autres, des troupeaux en fait d'herbivores qui passent par là. Mais il y a tout un soin esthétique en fait apporté à la perception et la confection en fait de l'environnement proche par d'autres espèces que l'homme. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est de plus en plus utilisé dans les modèles évolutifs. Heureusement.
C'est pareil pour nous, que on peut très bien dire quel est-il faire dans cette caverne. Pourquoi tout d'un seul coup, à l'époque où effectivement on doit se battre pour se nourrir, et qu'est-ce qu'on va faire dans les cavernes avec des peintures? Pourquoi on fait ça? Donc ça, je crois que c'est inhérent même à la vie elle-même, c'est-à-dire que ce soit les animaux. J'en reviens à la question de l'art, et du coup je reviens à Jules Verne. C'est, pour moi, Paris au XXe siècle est un roman vraiment extraordinaire, parce que il dit, si l'art meurt, l'homme meurt. Mais alors, du coup, l'animal aussi. Puisque, on le dit là, l'animal joue, l'animal invente, l'animal construit, mais même sur lui-même, un pan. Quand vous regardez l'infrastructure, et même tous ces animaux au fond des abysses, on dit monstrueux, mais enfin, ils ont aussi une structure artistique absolument incroyable. Donc, je pense que, je crois que l'art, le jeu, fait partie inhérente de la vie. D'où ces questions. Est-ce que demain, dans l'avenir, l'art sera toujours là? Est-ce que la machine deviendra artistique? Peut-être ça l'avenir.
Comment on peut considérer l'art en bon darwinien? C'est quoi l'avantage évolutif de la pratique artistique?
Je pense qu'il n'y en a pas, et c'est peut-être un des critères de définition de l'art. C'est très difficile à définir, mais peut-être que justement, l'art n'a pas besoin de définition et n'a pas besoin d'une utilité, heureusement d'ailleurs, parce que je pense que ça serait plus de l'art en partie.
En fait, on est les enfants de l'inutile.
Exactement.
C'est à partir du moment où on s'intéresse à l'inutile qu'on évolue. Tant qu'on utilise les outils pour manger, pour chasser, on vit dans un présent. On va se projeter à partir du moment où on utilise l'inutile. Le rêve, l'imaginaire, l'anticipation, tout ce qui n'est pas utile, là, maintenant.
Ça fait penser à cette discussion intéressante à une petite BD. Je ne sais plus le nom du dessinateur. On voyait en fait un homme dans une caverne en train de faire de magnifiques peintures rupestres, et puis il y en avait un autre qui le regardait, qui lui demandait: mais t'as pas un métier normal, chasseur-cueilleur comme tout le monde?
Oui, mais si je peux revenir sur ce que tu viens de dire, je suis complètement d'accord sur ce que tu dis. C'est typiquement occidental, hein, après, de se dire que l'art est inutile, hein. Ça, c'est vraiment lié à la société blanche, judéo-chrétienne. On le retrouve pas sur d'autres continents. Il y a des continents où l'artiste a un rôle très utile dans la société. Ça, c'est vraiment très, très européen. Non, après, c'était pour rebondir sur ce personnage qui peignait dans une grotte. Ça, c'est très, très judéo-chrétien, occidental. Après, par rapport à justement l'inutilité de l'art, en fait, ce qu'elle a, en fait, en fin de compte, l'inutile est tellement utile. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, cette inutilité nous est tellement essentielle. En fait, si on est tous là et si on est tous en train d'écouter, ou nous, on échange, vous ne pouvez pas, mais on pourrait échanger si vous voulez. Mais en fait, en fin de compte, c'est cette phase d'incertitude. En fait, c'est la capacité, je pense, qu'a l'art. En fait, c'est de provoquer des choses. En fait, c'est là où elle fait c'est ce qu'elle évolue. Et ce qu'a toujours été l'évolution humaine, en fin de compte. C'est-à-dire, en fait, on parlait d'accidents, quand en sont ou quand en sont pas. Hein. Des fois, ce ne sont pas des accidents. Aussi, c'est de l'observation. Aussi, je pense que l'être humain s'est beaucoup appuyé sur l'observation, en fait, dans son intelligence. Et en fait, c'est cette chose qui nous permet certainement, en fait, d'avancer et d'évoluer. Et voilà, en fait, c'était pour rebondir sur l'inutile tellement utile.
Et Billy Deezer, donc là, je dis ça pour tous les gens qui sont arrivés et qui ont vu le point d'arrivée de cette discussion. Le point de départ, c'était Planète Jules Verne. Donc, on est parti de cette revue, donc une revue qui est une revue annuelle, qui a un formidable travail de bénévoles, beaucoup de Nantais aussi, qui est un peu, voilà, ce que je disais, l'expression de la culture scientifique nantaise ici, et dont vous avez donc quatre contributeurs du dernier numéro sur l'éternelle question du temps, que vous pouvez trouver sans doute aux Utopiales, mais vous pouvez trouver certainement au musée Jules Verne et à la librairie Coiffard, puisque c'est édité aux éditions Coiffard. Donc aujourd'hui, nous avions Jean-Sébastien Steyer qui dedans écrit un article sur les espèces panchroniques, donc les espèces qui évoluent mais dont les traits changent peu, donc les sélacantes et beaucoup d'autres espèces, le nautile, on peut en parler tout à l'heure. Agathe Petit, journaliste scientifique, qui elle a écrit un article sur les transhumanistes. Sidney Bernard, vous êtes dans cette revue suite à votre spectacle 20 milieux sur les mers et votre visite, merci pour le packshot, visite théâtralisée que vous avez organisée, vous continuez d'organiser peut-être, ou c'est terminé?
Non, là c'est terminé, mais...
que vous avez organisé, donc
par contre, je continue à jouer 20 milieux sous les mers.
Et Jean Bénichon, dont on peut trouver les œuvres au mini golf du camping municipal de Petit Port. Ça doit être assez chouette de voir des œuvres d'art là-bas. Et surtout au musée Jules Verne, donc vous présentez une exposition qui s'appelle Chaosmos. Voilà, que je vous invite à voir, qui est terminée. Désolé, j'ai mal fait mes fiches. Très bien. Eh bien, merci à tous.
Et alors, juste, puisque...
Oui, pardon, merci. Des derniers mots.
Juste une chose qui est très drôle, c'est que mon prochain spectacle, c'est sur Cro-Magnon. Et donc, c'est très drôle parce que c'est vraiment à la suite et en travaillant avec Jules Verne que j'ai eu envie de travailler sur la peinture, sur le mot. Et donc, c'est pour faire un lien avec ce travail.
Très bien. Et bien, merci à toutes et toutes. Et bonne journée. Les utopiales.